Découvrez Epsilon Stories, les podcasts d'Epsilon France. Un condensé de témoignages, de retours d'expérience, de tendances et d'expertise du data marketing.
Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Epsilon Stories Let's Talk, cette série dont le but est de mettre en lumière et de débattre les problématiques data marketing par secteur d'activité. Je suis Grégory Lecointe, DGA en charge du développement chez Epsilon France. Nous continuons notre série en parlant aujourd'hui du retail, secteur très dynamique, en transformation continue et évidemment chamboulé par les événements depuis 2 ans. Pour en discuter, je suis accompagné de Nel Giannessini, Marélis Rabourdin et David Raguert, tous les 3 directeurs conseil et stratégie chez Epsilon France et qui accompagnent certains de nos plus grands clients retail. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le liker et le partager sur les réseaux sociaux pour nous aider à le diffuser. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, Marélis, si on reste dans l'actualité proche, et en particulier la pandémie que l'on subit depuis 2 ans, quel a été selon toi l'impact sur les comportements d'achat et le retail en général ?
Effectivement, il y a eu de nombreuses infographies qui sont sorties sur le sujet depuis plusieurs mois, sur les nouvelles tendances du retail post-confinement. On a eu des fermetures de magasins pour certaines enseignes, des baisses de trafic pour d'autres, des hausses drastiques du e-commerce qui ont complètement rebattu les cartes du retail. Et tout cela s'est traduit en magasin chez certains de nos clients par la baisse des enseignes fréquentées, donc par ricochet la baisse de notre fréquence de visite, et malheureusement elle n'a pas été compensée par la hausse des paniers moyens malgré la hausse des quantités achetées. Donc ça c'est côté magasin. Maintenant côté digital, effectivement les distributeurs ont dû développer leur modèle à marche forcée, les consommateurs ont dû l'adopter le plus rapidement et le plus largement possible, que ce soit le drive, la LAD ou la partie click and collect. Et ça a permis de limiter une partie de l'impact des fermetures, mais ça a aussi eu l'avantage de recruter de nouveaux consommateurs. Et effectivement, on a eu d'excellents chiffres côté e-commerce, ça a boosté ce canal, ça a permis de prendre plusieurs années d'avance sur son développement. Et si l'expérience shopper a été concluante, puisque certains sites n'étaient malheureusement pas encore au rendez-vous, on a pu observer un taux de répéteur malgré la réouverture des magasins physiques. Pour autant, il ne faut pas se leurrer, les performances qu'on a connues pendant cette année atypique, cette période atypique, ne se retrouvent pas après. On aura du mal à remonter sur les chiffres connus en 2020. Le poids du e-commerce ne va pas pouvoir retrouver le même niveau pour autant de 2019. On a fait mieux et pour ça, il est important de pouvoir pérenniser justement ces nouveaux acheteurs digitaux, car tous les chiffres le prouvent, notre client mixeur a beaucoup plus de valeur que les autres clients et il faut vraiment réussir à développer cette mixité entre la partie on et offline. Et grâce à la crise Covid, on a justement atteint cette maturité omnicanale qui va permettre l'hybridation plus forte de l'expérience d'achat.
Alors d'accord, donc on sent une accélération vers le digital, une baisse des achats en magasin, même si le modèle reste encore un petit peu mixte à terme. David, est-ce qu'on peut se dire finalement que le retail brick and mortar, c'est mort ?
Alors moi, je vais être très pragmatique. Il suffit de voir le nombre de personnes dans les centres commerciaux le week-end, le trafic encore dans les boutiques, dans les magasins, pour se dire que finalement, le retail est loin d'être mort. Et de noter aussi que les pure players aujourd'hui, comme Cdiscount, Amazon et j'en passe, créent leur espace réel pour se rapprocher de leur clientèle. Donc non, le retail n'est pas mort, mais en tout cas, ça pose la question de savoir finalement quelle est sa mission ? Quelle est la vraie mission aujourd'hui du point de vente ? Quel est le bénéfice que va pouvoir en tirer le consommateur ? Et quel intérêt finalement j'ai moi en tant que consommateur à me déplacer, à prendre les transports, à aller acheter tel ou tel produit alors que potentiellement je peux avec 2 clics le commander. Donc ça c'est bien là l'enjeu du retail aujourd'hui, hein, de réussir finalement à se réinventer en offrant plus qu'un espace de vente, mais je dirais un espace d'expérience pour conforter le choix du consommateur, pour bénéficier de plus de conseils et surtout pour fluidifier son achat. Donc n'oublions pas aujourd'hui aussi que le client est omnicanal, c'est-à-dire qu'il va faire son achat avec une étude au préalable sur le web pour consulter les avis, qu'il va interroger sa communauté pour comprendre si le produit est vertueux. Donc là, on va parler de digitalisation au sein et notamment au début finalement du parcours conso. Mais il y a aussi la digitalisation in-store qui va permettre comme ça au retail de proposer une valeur sur place, qui vont se traduire par des messages interactifs lors des déplacements avec des offres personnalisées par exemple, ou indiquer une place de parking qui est disponible près du magasin. Donc on voit bien finalement aujourd'hui que le magasin n'est pas mort, il vit simplement une révolution où le monde physique est en symbiose avec l'expérience digitale.
D'accord. Alors cela me fait réagir tout de même sur l'arrivée des mastodontes du retail digital que sont les plateformes, avec évidemment Amazon en figure de proue. Nel, selon toi, quelle est la clé du succès de ces plateformes et comment survivre à leur impact ?
Alors c'est vrai que ces plateformes, elles présentent un certain nombre de bénéfices, c'est certain. Elles permettent une grande profondeur d'offres, elles impliquent les consommateurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est évidemment important de pouvoir évaluer ces services, ces produits. Et elles permettent aussi aux marques de démultiplier leur visibilité et d'attirer un trafic de qualité sur leur site. Donc il y a un certain nombre de nouveaux modèles qui apparaissent pour contrer la puissance de ces plateformes. Le premier, ça va être finalement de devenir une plateforme via une marketplace. Donc c'est vrai que c'est avec les années Covid, ça s'est énormément accéléré. Et aujourd'hui, parmi les 15 plus gros sites e-commerce de France, 11 sont des marketplaces. Donc on le voit bien dans les chiffres. Et il y a un certain nombre de retailers et de marques qui deviennent des plateformes hybrides, un petit peu comme la Redoute, qui vend à la fois ses propres produits et aussi ceux d'autres marques. Après, il y a un modèle de verticalisation. Alors, le meilleur exemple, c'est ces fameuses DNVB, les Digital Native Vertical Brands, où là, elles sont exclusivement concentrées sur la distribution online et généralement, elles sont monoproduits, ou en tout cas monosecteurs. Donc, on a tous en tête l'exemple des matelas Teddy Bear. Vous avez bien sûr les sous-vêtements, le slip français, les fleurs bergamotes. Dans le domaine de la puériculture, Studio Romeo, ou encore un très bon exemple, peut-être évidemment la marque Cézanne. Il y a bien sûr aussi des marketplaces qui sont verticales. Et donc là, vous avez la plateforme Mano à Mano qui se spécialise dans le secteur du bricolage ou Vestiaire Collective, qui là est sur la seconde main. On en reparlera tout à l'heure justement. Et ça leur permet, ces marketplaces verticales, notamment de créer et de rassembler les consommateurs autour d'une communauté.
Merci Nel. Donc on a des nouveaux modèles qui se créent, qui contrent justement l'arrivée de ces très grandes plateformes globales et qui donc doivent retravailler, et tu l'as dit, le lien avec le client. Donc quand on regarde l'évolution des programmes d'engagement client et des programmes en particulier de fidélité tels qu'on les travaille depuis des années, David, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ces programmes ?
Au même titre que le retail doit se réinventer sous l'effet des changements de comportement des consommateurs, évidemment que la relation évolue et évidemment que les attentes vont changer. Si on se fait un petit peu d'histoire, le programme de fidélité, il avait deux objectifs en termes d'intérêt client. Le premier, c'est d'apporter de la générosité, et on parle de 5% de générosité qui était redistribuée sous forme de chèque de fidélité. Et puis le deuxième levier était l'information qui était donnée aux consommateurs avant tout le monde. Donc c'est la primeur de l'info qui permettait d'être considéré comme client important puisque j'avais l'info avant tout le monde. Aujourd'hui, cette info est donnée au niveau des réseaux sociaux, ce qui veut dire que le programme de fidélité tel qu'on l'a imaginé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, aujourd'hui, il a plus trop d'intérêt. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'il se réinvente. Donc là, on parlera, et c'est vraiment l'enjeu que l'on a au niveau relationnel aujourd'hui, et le terme relationnel prend tout son intérêt, puisque jusqu'à présent, la relation était portée par du transactionnel, c'est-à-dire la relation financière. J'achète, j'ai des avantages. Aujourd'hui, les marques vont aller chercher plutôt de l'émotionnel, plutôt du serviciel, c'est-à-dire qu'ils vont attendre d'apporter au consommateur de l'engagement, ils vont attendre que le consommateur qui le demande d'ailleurs, apporte son avis, contribue, participe, autant d'éléments qui vont lui rendre un intérêt et qui vont permettre évidemment à la marque de renforcer sa relation avec son consommateur. Le point important sur le levier serviciel qui se développe de plus en plus, c'est que déjà le levier serviciel est porté naturellement par les plateformes. Donc ça veut dire que le retail derrière devra apporter autre chose que, par exemple, la rapidité de livraison qui est aujourd'hui le fer de lance des plateformes. Donc on ira chercher sur l'aspect un peu émotionnel pour renforcer le lien pour créer une vraie valeur et pour faire en sorte que telle ou telle marque garde la préférence de ses consommateurs grâce à ce lien et cet échange qui va être construit sur des leviers plutôt émotionnels. Donc les initiatives comme dans le milieu du sport qu'on retrouve par exemple chez GoSport, où on va pas simplement vous rémunérer l'achat de tel ou tel produit, mais on va finalement remercier votre pratique du sport. Donc en fait, moi GoSport, je vais vous inciter à la pratique du sport et en même temps, je vais m'initier dans votre pratique du sport en vous apportant de la reconnaissance parce que vous avez pratiqué tel ou tel sport. Et même dans certains cas, ça va être le challenge qui va être récompensé, puisque si je termine avec un chrono ou sur le podium par exemple, ça c'est plutôt sur Sport 2000, on l'a avec le livret sport, on va être de nouveau quelque part récompensé et reconnu dans cette logique. Donc on voit bien aujourd'hui que la relation qui était portée jusqu'à présent par des programmes dits de fidélité s'oriente davantage sur des programmes aujourd'hui plutôt de type relationnel au sens émotionnel, voire serviciel.
Alors, on a pas mal parlé marketing. Ici, on est là pour se parler du data marketing. Et donc, si on prend maintenant l'aspect data, avec tous ces changements et toute cette accélération, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'évolution des pratiques data dans le retail de nos jours ?
Alors effectivement, comme l'a dit David, il est important, quoi que ce soit un programme transactionnel, un programme relationnel, un programme plutôt émotionnel, mais toujours de pouvoir capter de la data et un maximum de data. Parce que quand on parle data, on pense effectivement à tout ce qui est activation CRM, segmentation, animation personnalisée des sites. Et ça, c'est primordial pour pouvoir effectivement améliorer l'expérience client. Côté acteurs de la HSA, on a aussi tout ce qui est technique d'animation promotionnelle avec par exemple les moteurs de couponing qui permettent de vraiment pouvoir distiller la meilleure offre selon un profil client, donc quelque chose d'extrêmement personnalisé, les promovores, les biosanté, les rapides et faciles. On voit qu'avec en plus l'arrivée de tout ce qui est intelligence artificielle, on a une finesse de ciblage sans précédent et on arrive vraiment à affiner notamment la partie recrutement de non-acheteurs de façon très très poussée. Mais au-delà de tout ce qui est entre guillemets classique, promotionnel, la data, elle permet aussi d'irriguer toute la stratégie d'enseigne. Il y a encore des entreprises qui ont du mal effectivement à aller jusqu'au bout de la démarche, mais il faut vraiment pouvoir réussir à mettre le conso au cœur des réflexions, que ce soit au niveau média, merch ou pricing. Et c'est bien cette analyse et cette étude des comportements, que ce soit en termes d'achat ou en termes attitudinal, qui va permettre d'affiner le mix de la marque, le mix de l'enseigne. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les marques l'ont bien compris que la data était effectivement une donnée, c'est un peu l'or noir de demain pour eux. La data, elle est aujourd'hui une source de connaissances, mais aussi une source de revenus. Et on le voit, toutes les grandes enseignes qui dispensent maintenant de plusieurs millions de clients en basé, elles proposent maintenant de pouvoir monétiser leur base de données. Et on a pu l'observer avec le nouveau concept Carrefour Links, avec aussi la proposition de valeur côté casino avec Relevancy, que ce soit des acteurs de GSA ou de GSS, parce que comme le disait David, ils ont aussi une expertise très fine et avec des domaines de compétences très propres à leur métier, et ils vont pouvoir monétiser cette donnée, et ça va être effectivement central dans leur PNL. Et d'ailleurs, le groupe Publicis l'a compris, car en 2019, il y a effectivement eu le rachat de toute la partie Epsilon. Et maintenant, avec ce continuum de services, on est capable de proposer tout un alliage complet et un partenariat gagnant en allant justement plugger tout ce qui est data à toute la partie créative historique du groupe Publicis. Et on a même notre propre offre de monétisation avec tout ce qui est projet Citrus.
Merci Marie-Élise. Pour finir, Nel, quand on se projette un petit peu plus loin sur les tendances qui vont nous porter dans les prochains 10-15 ans sur ce marché, qu'est-ce que toi tu vois ?
Aujourd'hui, on a 62% des Français qui prennent en considération les valeurs d'une marque avant d'acheter un produit. Donc ça, c'est ça qui va être au cœur. Le besoin de redonner du sens à l'achat, donc consommer responsable, moins mais mieux. Donc c'est tous les modèles autour de l'économie circulaire notamment. Il y a une étude de Kantar qui est sortie il y a quelques mois qui montre qu'aujourd'hui, il y a un tiers des Français qui ont déjà acheté des vêtements, des chaussures, des accessoires d'occasion. Alors, il y a évidemment les acteurs historiques sur le sujet, Le Bon Coin, Vinted, mais il y a aussi toutes les marques du secteur de l'habillement qui se lancent là-dedans. Vous avez Aigle, Promode, Kiabi, Petit Bateau, ils se sont tous lancés dans le marché de la seconde main. Le monde du sport également, puisque Decathlon expérimente la revente de produits d'occasion également. The North Face qui aussi lance une collection de vêtements remis à neuf, donc qui sont récupérés après avoir été portés, qui sont inspectés, réhabilités pour être de nouveau mis en vente. Dans le secteur de high-tech, vous avez cette marketplace, justement, Back Market, qui fait une croissance impressionnante, ou Dartimax, pour le blanc, qui là, propose la réparation des appareils électroménagers. Donc aujourd'hui, on voit que les consos ont même plus forcément besoin de posséder des articles, puisqu'il y a tout un mode locatif qui se met en place. On peut louer une robe pour un week-end, par exemple. Et il y a pas mal de marques qui s'engagent à produire les justes quantités dans l'éco-conception sans gâchis. Donc il y a Jules, Patagonia, notamment récemment, qui ont pris la parole là-dessus. Il y a tout un sujet autour des politiques de retour gratuit, donc qui sont en train d'être complètement revus pour limiter leur impact sur l'environnement. Et il y a des sociétés spécialistes du sujet comme Shop Run Back qui aident toutes ces entreprises à optimiser leur politique de retour. Et en ce qui concerne le groupe Publicis, il y a une grande initiative qui a été lancée le 25 novembre, No Impact for Big Impact, qui s'engage à l'éco-conception de nos campagnes, donc qui va vers une transition écologique de la communication. Et évidemment, Ypsilon et la data jouent un rôle clé dans tout ça. Et on va avoir évidemment la capacité de définir, de déceler et puis de monitorer ces nouveaux comportements tout en accompagnant les marques dans la mise en place de ces nouvelles initiatives.
Merci à vous trois. En conclusion, les enjeux data marketing dans le retail, on l'a vu, sont grandissants avec évidemment l'impact des plateformes, mais aussi et surtout l'évolution constante des comportements et motivations des consommateurs. Notre rôle en tant que spécialiste data marketing est donc de constamment innover dans les stratégies de personnalisation et les stratégies d'expérience client, mais aussi d'inventer de nouvelles propositions de valeur autour de la fidélité qui vont devoir aller au-delà des leviers purement transactionnels que l'on a typiquement. Encore une fois, Nel, Marie-Alice, David, un grand merci pour vos précieux insights.
Merci à bientôt.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez participer à la conversation et échanger avec nous sur ce grand sujet de l'évolution du retail et des modèles marketing associés, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.